Frères et sœurs,
à l'écoute de ces textes de ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous découvrons une grande détresse avec une vision apocalyptique. Ces paroles sont peut-être difficiles pour la mentalité de notre temps et peut-être sombres, car les conditions qui nous entourent contribuent à l'assombrissement de nos pensées. Toutefois, nous y devinons une lueur, une lumière et une espérance. Cheminons ensemble pour découvrir ce que nous dit le Seigneur. Dans la première lecture, le prophète Daniel avance deux affirmations. La première, une parole de réconfort à l'adresse de ses contemporains vivants qui traversent une période effroyable, une persécution sans nom, vers 170 avant Jésus-Christ, par Antiochus IV, roi grec, appelé aussi Épiphane. La seconde affirmation, et c'est une grande nouveauté, une proclamation de la foi en la résurrection des morts. Cette affirmation de Daniel sera suivie d'autres étapes dans la découverte du projet de Dieu. Le psalmiste, quant à lui, nous donne à entendre de la joie, du bonheur, l'espérance d'un chemin de vie. En approfondissant ce psaume, nous découvrons un contexte d'époque où le peuple d'Israël se tourne vers d'autres dieux. L'idolâtrie est présente et les prophètes, eux, montrent le chemin de la fidélité à la vraie foi. Tout comme Daniel, qui dans la première lecture exhortait ses frères à ne pas renier leur foi malgré la persécution du roi Antiochus. Ce psaume résonne comme le oui des croyants à la prédication des prophètes et en même temps comme la supplication adressée à Dieu de nous aider à tenir bon. L'auteur de la lettre aux Hébreux, lui, nous invite à comprendre que Jésus est le Messie que l'on attendait. La liturgie des prêtres de l'Ancien Testament était quotidienne. Ils offraient les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Tandis que Jésus, lui, a offert un sacrifice unique, sa vie donnée, a enlevé une fois pour toutes les péchés du monde. Le Christ est désormais assis pour toujours à la droite du Père. Et c'est en lui que nous trouvons la perfection et la sanctification. La perspective, l'espérance d'entrer dans le chemin de sainteté nous est ouverte. Marc, dans le passage d'Évangile, nous livre un discours peu habituel et utilise un style de langage symbolique utilisé à son époque dans le Proche-Orient. Le style apocalyptique, comme en écho à la lecture de Daniel. Après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Le mot « apocalypse », qui donne son nom au style littéraire, prend racine dans un mot grec qui veut dire « lever le voile », « révéler ». Ainsi, utiliser ce mot à propos d'événements terrifiants dans le langage croyant, juif ou chrétien, est un contresens, car c'est juste le contraire. La révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes, mais au contraire, à leur permettre d'aborder tous les bouleversements de l'histoire en soulevant le coin du voile pour garder l'espérance. Dans cet extrait, pas de catastrophe, mais une bonne nouvelle. On verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Et Jésus demande à ses disciples d'apprendre de la parabole du figuier les signes avant-coureurs du retour du Fils de l'homme. Ce chapitre 13 s'achève même par l'injonction de Jésus : veillez. En effet, les premiers disciples ont pu croire que la fin des temps était proche et que le Christ allait revenir rapidement. Une maturation spirituelle s'est peu à peu opérée dans le cœur des croyants. Jésus est proche parce que depuis sa résurrection, il est déjà là en nous, où désormais il vit et respire. La foi chrétienne n'est rien d'autre que le lent et patient travail de dévoilement que nous avons à faire en nous pour y voir la trace de sa présence. La détresse était présente dans les deux périodes que nous avons traversées lors des lectures. Et aujourd'hui, cette détresse s'exprime encore au travers des malheurs et des souffrances. Guerre, tremblement de terre, feux de forêt, irruption de volcans, famine, violence, désastres naturels, épidémie, chômage, pédophilie, prostitution, foyers séparés, scandales de toutes sortes, maladies. Les malheurs arrivent et passent. Les puissances de ce monde prennent de la force, puis disparaissent. Les empires d'Égypte, de Babylone, de Perse, de Grèce, de Rome sont suivis du Moyen-Âge, du féodalisme, des grandes monarchies, de l'époque des Lumières, du communisme, du fascisme, du totalitarisme, du capitalisme sauvage. Dans toutes ces périodes de l'histoire traversée ou en cours, la détresse se fait jour, comme dans toutes les familles et dans toutes les vies. Il y a une saison d'automne, suivie de la froidure et du gel hivernal. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, dit Jésus. L'Évangile ne nous invite-t-il pas à l'espérance et non à la peur par cette parabole de figuier ? Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Que cette espérance nous habite, comme nous l'a écrit Pierre. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Cette espérance, le pape François nous invite à la faire vivre en ce 33e dimanche du temps ordinaire pour cette journée mondiale des pauvres. Institué par notre pape depuis 5 ans, il nous invite, nous, catholiques, à recevoir les pauvres comme sacrement du Christ et d'avoir une attention particulière pour eux. Je me permets, au nom de nos communautés, de vous remercier pour vos engagements personnels ou plus collectifs au sein de nos paroisses, de notre diocèse. Le message de notre pape, cette année, débute par ce verset de Marc. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et je ne peux que vous encourager à sa lecture, dont voici un extrait. J'espère que la journée mondiale des pauvres, qui en est à sa 5e célébration, pourra s'enraciner de plus en plus au cœur de nos églises locales et provoquer un mouvement d'évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils frappent à notre porte. Il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de refuge et d'accueil. Il est important de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur. Faisons nôtre les paroles pressantes de Don Primo Mazzolari. Je vous prie de ne pas me demander s'il y a des pauvres, qui ils sont et combien ils sont, parce que je crains que de telles questions ne représentent une distraction ou un prétexte pour s'éloigner d'une indication précise de la conscience et du cœur. Je ne les ai jamais comptés, les pauvres, car on ne peut pas les compter. Les pauvres s'embrassent, ils ne se comptent pas. Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité, nous sommes pauvres, nous aussi, et c'est seulement de cette manière que nous réussissons à les reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument du salut. Amen.